France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Dans une récente prépublication, des physiciens disent avoir trouvé, dans une expérience de physique quantique, un temps négatif. Qu'est-ce qu'un temps négatif et surtout, quelles sont les difficultés que le temps pose à la physique moderne ? Newton imaginait que le monde était muni d'une horloge maîtresse, qu'il existait un temps absolu. La physique newtonienne a ainsi cherché à écouter un tic-tac universel. Puis, au XXe siècle, les travaux d'Einstein ont bouleversé cette vision. C'est une révolution conceptuelle. Avec Einstein, le temps n'existe plus. Mais dans le cadre de la physique quantique, ou plutôt, devrait-on dire, des physiques quantiques, comment cette notion est-elle définie et aura-t-elle un rôle à jouer pour unifier les différentes théories ? Physique, il y a un temps pour tout. Marc Lachiezeray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au laboratoire Astroparticules et Cosmologie qui travaille sur le temps, ou plus exactement sur son absence. Yann Mambrini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie de l'université Paris-Saclay. Et nous sommes en ligne également avec Francesca Vidotto, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes professeure adjointe et titulaire d'une chaire de recherche au département de physique et d'astronomie à l'Université Western d'Ontario au Canada. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources, c'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, qu'est-ce que la relativité d'Einstein a fait au temps ? Quels sont les problèmes liés au temps en mécanique quantique ? Et ce concept est-il si différent selon les grandes théories de la physique ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelles sont nos armes théoriques pour aborder ce sujet ? La question est posée en 1967, c'est notre archive du jour.
Le temps est une notion que manie le physicien. Et le temps était une notion qui était particulièrement chère aux philosophes. À notre époque, quelles sont les armes dont le philosophe dispose encore pour parler du temps ?
Je me demande s'il dispose vraiment d'armes nouvelles. Je vous rappellerai le mot de saint Augustin. Si personne ne me demande ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Mais je ne peux pas répondre à celui qui m'interroge, je ne sais plus quand on m'interroge. Le temps a toujours préoccupé les philosophes, dès l'Antiquité, et tout de suite, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte d'antinomie entre la raison livrée à elle-même et le temps. Si le temps est ce qui s'écoule, nous ne pouvons plus parler. C'était l'argument des sophistes. Il fallait que quelque chose demeurât fixe, c'est-à-dire que le temps s'arrêtât pour que l'on puisse parler, précisément. Donc, le temps a toujours été d'une extrême difficulté pour les philosophes, réduit à leur seul logos. Autrefois, ils n'avaient pour en parler précisément que le discours qu'ils pouvaient faire sur le temps. Et quel progrès a-t-on fait à supposer qu'il y ait des progrès ? Il y a eu le progrès chrétien qui a orienté le temps, qui, d'une part, l'a fait commencer à la création, l'a fait terminer dans la fin des temps. Il y a eu comme autre progrès Kant, qui nous a appris que le temps était subjectif, puis Hegel, dont la description est originale en ce qu'il commence par le futur et fait advenir le temps du futur vers nous. Ensuite, la philosophie moderne a beaucoup parlé du temps, mais elle en a raffiné la description beaucoup plus qu'elle nous a éclairé davantage sur la nature du temps.
Voilà un extrait de l'émission Sciences et Techniques sur France Culture, diffusée en 1967. C'était Yvon Bellaval, professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris. Marc Lachiezeray, est-ce que justement ces outils en philosophie sont-ils utiles pour les physiciens aujourd'hui sur ces questions de temps ?
Je crois que la physique peut contribuer beaucoup à la philosophie et vice-versa, surtout sur cette question du temps. Et je pense qu'on ne peut pas plus parler aujourd'hui comme il parle, comme on vient d'entendre ce témoignage, parce que précisément la relativité a énormément éclairci les choses. D'une part, en nous éclairant ce que c'est que le temps, je peux parler de ça en une minute dans un moment, et d'autre part, en montrant que certaines de ces certains de ces problèmes, certaines de ces antinomies, comme elles ont été mentionnées, qui sont finalement des sortes de contradictions logiques quand on essaye de réfléchir au temps, disparaissent complètement dans le cadre de la réalité. Puisque le temps disparaît, ça ne veut pas dire que tous les problèmes disparaissent, mais beaucoup de problèmes se révèlent a posteriori des problèmes mal posés, et donc ils disparaissent. C'est même pas qu'on leur apporte une solution, c'est qu'ils disparaissent. Je prends un exemple simple, il prononce la phrase « le temps s'écoule ». Et c'est quelque chose qui paraît mystérieux, puisque justement au temps devrait être associé une permanence, qui n'est pas une permanence si le temps s'écoule. Eh bien, selon la relativité, non, le temps ne s'écoule pas du tout. Et si on voulait continuer à utiliser une image, c'est plutôt nous qui nous écoulons dans le temps. Et en fait, non, nous ne nous écoulons même plus dans le temps, nous nous écoulons dans l'espace-temps. Et ça n'est pas du tout qu'une image, parce que c'est exactement la manière dont la relativité représente ce que nous, nous avons l'habitude d'appeler le passage du temps ou l'écoulement du temps. C'est quelque chose, effectivement, de personnel, comme ça vient d'être dit, et c'est ce que prononçait notre interlocuteur tout à l'heure, c'est le temps est quelque chose de subjectif.
Le temps est quelque chose de subjectif. En effet, ça, c'est une idée qui est aussi annoncée dès Saint-Augustin, comme on l'entendait dans cette archive, Francesca Vidotto. Votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
Alors, il faut faire attention que quand on parle de temps subjectif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectivité. On peut mesurer le temps, mais dans la physique moderne, on découvre que les temps, comme des autres quantités, c'est quelque chose de relationnel. Alors que dans la physique classique, on trouve l'idée introduite par Newton, qu'il y a comme un grand horloge universel dans lequel les angles de l'horloge tournent toujours de la même manière pour tous les observateurs. Par contre, avec la relativité, on découvre que cette aiguille tourne de façon différente pour chaque observateur. Et voilà la subjectivité. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne soit pas objectif? Ben, moi, je dirais que non. Et je vous fais un exemple. Voyez, il y a plein d'autres propriétés qu'on a découvertes qui ne sont pas absolues. Par exemple, la vitesse. La vitesse, bon, par exemple, quand on est dans un train, on regarde des voitures par la route à côté de nous et évidemment la vitesse que nous voyons pour cette voiture est différente que la vitesse qu'observe quelqu'un qui est, je sais pas, à côté de la route, qui est en train de se promener. Donc il y a une vitesse de la voiture par rapport à moi, il y a la vitesse de la voiture par rapport à des autres observateurs. Il n'y a rien de subjectif sous ça. Il y a tout simplement que la vitesse est une propriété relative. Mmh. Alors que ici, quand j'ai parlé des grands horloges de l'univers, la vitesse avec laquelle les aiguilles tournent est aussi quelque chose qui dépend des observateurs. Ça, c'est la grande découverte d'Einstein avec la relativité.
C'est ça, Einstein, c'est tout part d'une relation entre l'observateur et le système observé, hein, même des choses que nous considérons qu'on considère hein, comme absolues. Yann Mombrini, finalement, dans cette histoire, le seul temps sur lequel on arrive à mettre vraiment tout le monde d'accord, c'est le temps ressenti, le temps qui est vécu dans sa subjectivité.
Alors c'est vrai que la question de la définition du temps n'est pas évidente. Je donne un cours au niveau master et sur le temps justement, et je demande à plupart des étudiants de définir le temps sur une feuille de papier et j'ai autant de réponses que d'étudiants. La définition que je prends pour le temps, parce que si on veut en parler, il faut essayer de le définir, je prendrai la définition de Leibniz qui dit que c'est l'ensemble des choses qui sont cohérentes mais non compatibles. Ah, ça fait réfléchir, je vois. Par exemple, prenez l'exemple d'une boule de bowling que je lance avec des quilles qui sont debout. Et je prends une photo de la boule de bowling avant que les quilles soient renversées. Puis la boule passe, les quilles se renversent. Je reprends une photo avec les quilles renversées. Ces deux photos ne sont pas compatibles. Les quilles ne peuvent pas être à la fois debout et à la fois couchées. Mais elles sont connectées. c'est bien parce que la boule est passée que les quilles sont tombées. Si une feuille d'arbre est un peu en dessous et un peu au-dessus, on voit une feuille d'abourgé, c'est parce que la feuille d'arbre ne peut pas être en dessus ou au-dessous, que quelque chose s'est passé entre ces deux éléments. En clair, c'est deux photos d'espace que l'on voit qui ne sont pas compatibles, et parce que ces deux photos d'espace qui ne sont pas compatibles se suivent l'une à l'autre, on définit ça comme le temps. Si jamais rien ne bougeait, si tout était figé, il n'y avait pas de notion de temps, il n'y a aucune idée d'avoir du temps. Si l'univers est figé, s'il n'y a aucune modification de l'espace. Donc déjà, Leibniz, dès l'époque de Leibniz, on doutait qu'il y avait un lien entre temps et espace. Ça, c'est fondamental par rapport à Einstein. Et il y a un lien fondamental entre temps et espace. Et c'est vrai qu'Einstein va en faire ses équations. Et autre remarque sur l'archive que vous avez donnée aussi, il parle du temps chrétien. Ça, c'est intéressant. Quand on regarde sur l'histoire des civilisations et des cultures, c'est vrai que c'est souvent les civilisations chrétiennes qui sont inspirées du temps. Beaucoup d'instruments de mesure ont été du monde occidental plus que du monde oriental. C'est assez intéressant. Et je pense que c'est principalement parce que le temps sur Terre, en fait, est compté dans les civilisations chrétiennes. Et le temps devient d'un seul coup très précieux. Et mesurer le temps dans une civilisation chrétienne est très fondamental parce que c'est durant cette période de vie sur Terre qu'on va déterminer notre infini.
Mais justement, là, avec ces termes mesurer le temps, on peut prendre le temps justement de définir tout ça, Marc Lachiaserie. On dirait que cette notion de temps, ça semble englober plusieurs concepts. Présent, passé, avenir, simultanéité, succession, durée. Comment y voir plus clair dans tout ça ?
Exactement. Et bon, moi, je me suis lancé à essayer de donner une définition du temps. Et c'est une définition composite. C'est-à-dire que le temps n'est pas du tout une notion première. Mais le temps est finalement la composition de plusieurs notions qui, elles, sont des notions que je qualifie de premières, si vous voulez, dans le sens où, premièrement, elles correspondent à l'intuition, elles correspondent à des mesures. Et ces notions, c'est, il y a la notion de durée, il y a la notion de chronologie, il y a la notion de datation, il y a la notion de causalité. Et il se trouve que Newton a cru, et il avait toutes les raisons de croire à son époque, que c'est différentes notions étaient liées les unes aux autres. Par exemple, que la durée d'une histoire, c'est simplement la différence entre la date de la fin et la date du début. Bon, et puis, par des raisonnements purement logiques au départ, Albert Einstein s'est aperçu que tout ça ne tenait pas. Tout ça ne pouvait pas tenir si on admettait que la vitesse de la lumière était constante. Raisonnement purement logique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces notions ne sont plus liées les unes aux autres et que, par exemple, celle de chronologie disparaît. Et évidemment, c'est quelque chose de conceptuel à laquelle on peut arriver par le raisonnement. Mais aujourd'hui, nous en avons une indication très concrète, c'est que sur Terre, nous avons des horloges. Nous avons des horloges très précises. La précision atteint 10 puissance moins 19, c'est-à-dire des milliardièmes de milliardièmes et même mieux. Et si on essaye de synchroniser deux horloges comme ça, on les met ensemble, même heure, même indication, on en bouge une un tout petit peu, elle est désynchronisée. Ça veut dire que sur Terre, aujourd'hui, il n'existe pas deux horloges qui indiquent la même chose. Et c'est ce qui s'appelle l'hypothèse des horloges qui a été introduite et formalisée par Einstein, c'est qu'une horloge n'indique pas le temps, mais une horloge indique la durée de sa propre histoire. Et si vous réfléchissez, vous avez des montres, vous avez des pendules, vous avez des horloges, des montres à quartz ou ce que vous voulez, des sabliers. Une montre ne mesure jamais le temps. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer la meilleure montre qui sort des meilleures usines. Tant que vous ne la mettez pas à l'heure, elle ne vous donnera pas le temps. En revanche, elle peut vous indiquer la durée, servir de chronomètre. Donc une montre, ça n'est rien que une horloge, ça n'est rien qu'un dispositif qui mesure la durée entre le moment où vous l'avez mise à l'heure et le moment où vous la regardez. Donc on mesure des durées, et ce que dit la relativité générale, c'est que de toutes ces notions qui, par leur composition harmonieuse, constituaient ce que Newton, par exemple, appelait le temps, il n'en reste qu'une qui soit vraiment avec une pertinence physique, qui est la notion de durée. Mais cette notion, on l'appelle d'ailleurs durée propre, parce que la durée que mesure ou que ressent ou qu'éprouve chacun, elle est propre à lui-même. Par exemple, ce que je peux mesurer avec ma montre et qui va durer une minute, va durer pour votre montre une minute plus une petite fraction. Et donc, voilà la grande innovation. Donc, comme cet accord qu'il y avait entre la notion de durée et celle de chronologie, par exemple, disparaît, eh bien, c'est dans ce sens-là que je crois qu'on peut dire qu'il n'y a plus de temps en relativité, mais on retrouve justement quelque chose qui est la structure causale de l'univers, qui ressemble à ce que disait Leibniz, c'est-à-dire la structure causale de l'univers, c'est exactement la conceptualisation de ce que Leibniz appelait les relations entre les événements. C'est relationnel, comme le disait aussi d'ailleurs Francesca.
Voilà, la durée est mesurable, mais pas le temps. Comment justement Einstein a fait cette révolution conceptuelle ? Restez avec nous, on vous raconte tout.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons du temps en physique relativiste, en physique quantique. On en parle avec Marc Lachiezeré, Yann Mambrini et Francesca Vidotto. On vient de parler de ce que la philosophie a apporté sur ce qu'est le temps, comment le penser, comment l'appréhender. On a parlé évidemment du temps absolu de Newton. On a aussi évoqué très rapidement ensemble cette notion de vitesse comme relative avec vous, Francesca Vidotto. C'est Galilée qui a énoncé d'abord cette vitesse comme relative. C'est un premier pas vers une relativité globale.
Tout à fait, c'est le début de la relativité dans la description du monde. En effet, c'est important de réaliser le fait que dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de la conceptualisation du temps, les philosophes ont toujours parlé de relationnalité. Par exemple, Aristote parlait du temps comme des mesures de changement. Alors que, comme Marc Lachiezeré nous dit avant, effectivement, cette notion du temps est beaucoup stratifiée. Il y a beaucoup de propriétés différentes qui sont associées à l'idée du temps. Il y a la causalité, par exemple, quelle est la succession des événements. Il y a la flèche du temps, et qui est quelque chose qui a à faire avec les chaleurs, la production des chaleurs, la production des désordres. Il y a toutes ces choses différentes. Et donc, avec Newton, on a choisi une notion du temps très précise, les grands horloges universels, et avec la relativité d'Einstein et avec aussi la mécanique quantique, il y a des propriétés qui vont disparaître, mais il faut faire attention que c'est pas que les temps disparaissent complètement. Il y a que certaines propriétés qui vont disparaître. Et comme je disais avant, effectivement, si on arrive à comprendre qu'il y a des propriétés qui sont relationnelles, comme la vélocité, comme on a appris par Galilée, ça va être plus facile de comprendre que aussi le temps peut être relationnel.
C'est ça, c'est que Einstein, lui, là on évoque Galilée ensemble, mais c'est dans cet article, le fameux article publié en 1905 par Einstein, il étend le principe de Galilée à toutes les lois de la physique alors connues, Marc Lachiezeré.
Oui, mais ce mot de relatif et de relationnel est absolument essentiel parce que la vitesse, comme on vient de le dire, elle est relative, c'est-à-dire la vitesse d'un objet, on ne peut en parler que du point de vue d'un certain observateur. Et c'est la même chose pour l'énergie, parce que si l'objet a une vitesse, il a aussi une énergie cinétique, donc la notion d'énergie dépend aussi de la vitesse. Et puis, je ne cite pas toutes les notions, mais ça, c'est un problème. Et ce qu'il y a d'extraordinaire en théorie de la relativité, et c'est pour cette raison que Einstein n'était pas très content de cette appellation, il aurait voulu l'appeler théorie des absolus, c'est que la relativité fonctionne avec des quantités absolues. C'est-à-dire, la notion de vitesse disparaît, finalement, en relativité, elle est remplacée par la notion de direction de notre mouvement dans l'espace-temps. Et ça, c'est un absolu. La notion de vitesse, la notion d'énergie, je ne vais pas dire qu'elle disparaît, mais ça n'est plus que la composante d'un objet plus compliqué qui s'appelle soit le quadrimoment, soit le tenseur d'énergie-impulsion. Et c'est ça qui, vraiment, dans la relativité, joue un rôle physique réel et c'est quelque chose d'absolu. Donc ça pourrait s'appeler, d'une certaine manière, la théorie des absolus. On appelle ça la covariance.
Yann Mambrini.
Oui. Et cette théorie de la relativité, en fait, est assez paradoxalement une théorie donc, de physicien-théoricien, je dirais, au départ, mais qui est portée par des expériences, des aberrations chromatiques de Bradley, déjà au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le fait que la vitesse de la lumière soit indépendante du mouvement de l'observateur était quelque chose d'assez paradoxal. C'est-à-dire que comme l'expérience du train est assez parlante. C'est-à-dire que si jamais j'ai un train qui va à 100 km/h et que je suis en voiture à 50 km/h derrière, je vais mesurer 50 km/h de vitesse du train. Si ma voiture, je la pousse à 100 km/h, je vais mesurer aucune vitesse d'écart entre le train et moi, parce qu'on ira tous les deux à la même vitesse. Il se trouve qu'à la lumière, comparé à la vitesse de lumière, si je cours derrière la lumière à 299 999 km/s, je vais continuer à mesurer 300 000 km/s, comme si la lumière savait que je courais après elle et décidait de s'éloigner de moi toujours à la même vitesse. Donc c'est une possibilité, que la lumière sache que je cours après et qu'elle accélère pour essayer de m'éviter. L'autre possibilité qu'Einstein a proposée, c'est que l'horloge change et que ces 1 km/h de différence entre moi et elle, en fait, deviennent 300 000 km/s. Deviennent 300 000 km/s principalement parce que mon horloge, en fait, a ralenti. Et si mon horloge a ralenti de telle sorte que je mesure toujours 300 000 km/s, je vais avoir cette fois-ci une théorie qui me donnera toujours la même vitesse de lumière, quel que soit mon référentiel. Alors, c'est fondamental. Parce que les équations de l'électromagnétisme, qu'on appelle les équations de Maxwell, dépendent de cette vitesse de la lumière. Et si on veut que la physique soit la même, quel que soit notre mouvement, il faut que cette vitesse de la lumière soit la même, quel que soit mon mouvement. C'est nécessaire. Donc il faut savoir que qu'on appelle le temps, le vrai temps, c'est-à-dire les divisions cellulaires, le clignement de votre signe, le tic-tac de votre montre, est fixé de telle sorte que vous mesurez 300 000 km/s. Tout votre temps, votre durée de vie, le temps qui vous entoure, est fixé de telle sorte que tout sera fait de telle sorte que vous mesurerez toujours 300 000 km/s pour la lumière.
Ça, en effet, c'est la conséquence sur le temps de la relativité restreinte et des équations d'Einstein. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est aussi l'illustration du phénomène le plus célèbre, le plus spectaculaire, le paradoxe des jumeaux qui a été présenté par Paul Langevin en 1911. C'est un modèle de pédagogie relativiste et une expérience de pensée très emblématique, Marc Lachaiserie.
Oui, oui, absolument. Mais si vous voulez, c'est l'illustration qui était à l'époque une expérience de pensée de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que deux horloges ne peuvent jamais donner la même indication. Pourquoi ? Parce que deux histoires, disons, on prend par exemple les histoires de deux jumeaux, mais leurs histoires sont censées commencer au même moment où ils se disent au revoir et se terminer au même moment où ils se retrouvent après que l'un d'eux ait voyagé, et quand ils se retrouvent, l'un a vécu 10 ans, par exemple, l'autre a vécu 20 ans. Alors évidemment, ça paraît extrêmement surprenant, c'est déroutant, c'est contre-intuitif, mais c'est tout à fait logique, et c'est exactement ce que l'on mesure, non pas avec des jumeaux et des différences de dizaines d'années, mais avec des horloges atomiques embarquées dans des avions ou aujourd'hui dans des satellites, et on mesure des microsecondes ou des nanosecondes de différence. Et pour une horloge atomique, une nanoseconde ou une microseconde, c'est énorme, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas mesurer, c'est vraiment bien supérieur à la précision. Par exemple, un cosmonaute qui va passer quelques mois dans la navette spatiale, il revient, dans la station spatiale, il revient, il est à peu près une microseconde plus jeune que, disons, sa femme qui est restée à Terre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est bien mesuré, bien compris, qu'on applique tout le temps, notamment dans la physique des particules et dans l'astrophysique, dans la navigation spatiale. Par exemple, le système de repérage GPS, si on ne tenait pas compte de tout ça, on ferait une erreur qui serait d'une vingtaine de kilomètres par jour. Parce qu'il faut se rappeler quand même que si on fait une erreur de mesure temporelle d'une microseconde, ça correspond à 300 mètres. Et une microseconde, ça arrive très rapidement, ce décalage, si on ne tient pas compte des effets dont je parle. Et en se cumulant, ça donne une erreur de 22 km par jour.
Oui, c'est ça, les GPS qui ont des horloges atomiques, il faut recalibrer. Exactement. Ces horloges. Et ça, Francesca Vidotto, on est en plein dans la relativité générale avec la gravité qui affecte le temps.
Tout à fait, parce que dans les GPS, on a deux effets différents pour lesquels il faut compenser les horloges. Donc, effectivement, il y a un effet de dilatation du temps qui est le même effet que se passe avec le paradoxe des jumeaux. Et c'est un effet qui est dû à la relativité restreinte et un effet qui est dû au mouvement des satellites. Mais il y a aussi un autre effet qu'il faut se rappeler, qui est l'effet qu'il y a aussi une dilatation du temps due à l'échappement gravitationnel. Ça veut dire que À seconde de où nous sommes par rapport à une source de l'échec gravitationnel comme la Terre, à seconde de ça, les tombes, et comme je disais avant, les aiguilles de l'horloge tournent de la manière différente. Les plus proches qu'on est à un masse très grand, les plus lentement, les aiguilles tournent. Et par contre, si nous sommes distants de la Terre, les aiguilles ont la possibilité de tourner plus vite. Donc voilà, les GPS, c'est effectivement un exemple génial pour voir qu'il y a un mélange entre la relativité restreinte, qui nous disent que l'espace et les temps peuvent se mélanger, mais il y a aussi la relativité générale, qui est la grande grand réalisation d'Einstein, que l'espace-temps lui-même est les champs gravitationnels. C'est ça, donc les temps est une manifestation de l'échappement gravitationnel.
Voilà, c'est ça, c'est que la théorie de la relativité restreinte en 1905, c'est le temps et l'espace ne peuvent plus être traités séparément, mais seulement comme un espace à quatre dimensions et plat. Et avec la relativité générale, Yann Mambrini, la présence de matière peut déformer localement l'espace-temps lui-même, et non pas seulement les trajectoires.
Localement et globalement. Et en fait, l'équation d'Einstein, que je vais dire une fois ici, la seule équation qu'on entendra peut-être, c'est G mu nu égale kappa T mu nu, on va dire, c'est-à-dire G pour géométrie, T c'est pour tenseur, mais on va dire c'est l'énergie, une densité d'énergie, c'est-à-dire que la géométrie est proportionnelle à la densité d'énergie, c'est-à-dire que tout type d'énergie va déformer l'espace et le temps, puisque la relativité restreinte dit que espace et temps doivent être mis sur le même plan. Et effectivement, plus on est proche d'une source de masse, plus le temps est déformé. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça a des conséquences assez étranges sur l'univers. Par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle le redshift, le décalage vers le rouge, qui dit que lorsqu'une lumière est émise par une galaxie, l'univers est en expansion. Si elle est émise bleue, elle nous arrive rouge. C'est normal, l'univers en expansion, il étire les longueurs d'onde. La longueur d'onde rouge est plus grande que la longueur d'onde du bleu. Donc on perd de l'énergie, et ce que je me demande à mes étudiants, parce que j'enseigne au master à l'ENS, et souvent je leur demande où est passée l'énergie, puisque le bleu étant plus chaud que le rouge, aucune des deux galaxies n'a bougé, on est d'accord, hein, c'est l'univers qui est en expansion, donc les deux galaxies sont fixes, mais le bleu est devenu rouge, donc il y a une perte d'énergie, et où est passée cette énergie? En fait, c'est assez intéressant, parce que c'est la géométrie, en quelque sorte, qui a pris l'énergie. Et on doit donc redéfinir un temps, en fait, et c'est tout simplement parce que la fréquence qu'on calcule entre le rouge et le bleu, est défini par rapport à un temps cosmique, le temps sur Terre, l'horloge, le rubidium, l'horloge atomique, ce tic-tac, tic-tac, tic-tac de la Terre. Mais c'est un temps local qui n'a aucune signification. Et il faut faire une révolution copernicienne équivalente à déplacer la Terre du centre du système solaire. Il faut aussi déplacer notre temps, pas l'espace, mais le temps du système solaire, et prendre un temps cosmologique, un temps conforme, on appelle ça un temps conforme, qui est le temps qui tient compte de l'expansion de l'univers. Et si on étire le temps en tenant compte de l'expansion de l'univers, eh ben, le rouge reste rouge et le bleu reste bleu. Il n'y a pas de perte d'énergie. C'est juste la définition du temps qui nous fait croire qu'il y a une non-conservation de l'énergie.
Cette définition du temps, comment est-elle abordée en physique quantique? Comment continuer à penser le temps en mécanique quantique ou en théorie quantique des champs? Quels sont les problèmes liés à ces questions? On continue d'en parler.
Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seule au long des roues, retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé. Dans cette ville, j'ai beau chercher mais plus rien, j'ai beau chercher dans les rues mais pourtant c'est en vain, tu sais. Dans le temps, ce quartier où l'on ne vit que la nuit, il y a comme avant. Dans le temps, autant de vie, de lumière et de bruit, on y venait souvent. Dans le temps, au club où l'on allait danser, j'ai traîné mon ennui. vu entrer toute seule, il a compris ma grande peine. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il a compris. Il a mis l'air que l'on peut donner, tu sais, dans le temps.
Tétula Clark, dans le temps, en direct sur France Culture, car nous parlons du temps qui est abordé dans différentes théories physiques. On en parle avec nos trois invités du jour, Marc Lachiaiseré, directeur de recherche émérite laboratoire astroparticules et cosmologie, Yann Mambrini, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des deux infinis, Irène Joliot-Curie de l'Université Paris-Saclay, et Francesca Vidotto, professeure adjointe et titulaire d'une chaire de recherche au département de physique et d'astronomie à l'Université Western d'Ontario au Canada. On a parlé d'Einstein, de la relativité restreinte et de la relativité générale. Comme nous l'avons vu, les courbures de l'espace-temps entraînent des modifications locales quand on mesure des durées. Grâce à ces tout petites modifications locales, on peut voir l'espace-temps bouger, se mouvoir, on peut même le voir onduler. Ce sont les ondes gravitationnelles et c'est le sujet de notre reportage du jour avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour détecter ces mouvements de l'espace-temps lui-même, on peut notamment essayer de voir les effets temporels qui sont dus à l'évolution de ces courbures de l'espace-temps.
Exactement, et on peut prendre une image pour le comprendre. Si vous avez déjà regardé une course de cyclisme, il arrive parfois qu'un rond-point sur le chemin vienne séparer le peloton en deux. Certains coureurs contournent le rond-point par la droite et d'autres par la gauche. Eh bien, ces deux groupes de coureurs, comme ils ont traversé des pans de l'espace-temps légèrement différents, si leur horloge était synchronisée avant le rond-point, elle ne le sera plus lorsqu'ils se retrouveront dans le peloton après le rond-point. Et si une onde gravitationnelle venait à passer sur le rond-point pile à ce moment-là, la différence serait encore plus marquée. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'on peut savoir qu'une onde gravitationnelle vient de passer. Alors bien sûr, on n'utilise pas un peloton de cyclistes, mais plutôt un rayon laser. Et ce n'est pas un rond-point qui sépare puis recombine ces rayons laser, mais ce sont des miroirs. Matteo Barsuglia est chercheur au CNRS et responsable du groupe Virgo au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris.
L'effet du passage d'une onde gravitationnelle change le temps d'aller-retour d'un faisceau lumineux. On envoie un faisceau lumineux, on le laisse voyager et puis on le laisse se réfléchir par un miroir, on le récupère et si on mesure le temps d'aller-retour, on peut démontrer avec les équations de la relativité générale que ce temps d'aller-retour, qu'on peut mesurer avec idéalement avec une horloge, change au passage d'une onde gravitationnelle.
Alors que la vitesse, ça reste celle de la lumière, elle n'a pas été modifiée.
Oui, bien sûr, la vitesse reste celle de la lumière. Et donc, idéalement, on pourrait mesurer le temps d'aller-retour, et s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, il y a un petit décalage.
Ce petit décalage de temps, il est tellement petit que les physiciens se sont dit que le plus simple, c'était d'essayer de le mesurer autrement, pas avec une horloge. Alors ils vont plutôt regarder la lumière comme une onde, parce qu'en conséquence de ce petit décalage de temps, l'onde lumineuse est un peu modifiée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut détecter en utilisant une version améliorée d'un instrument que les physiciens connaissent bien, l'interféromètre de Michelson.
Donc nous sommes devant l'article historique de la première détection d'une onde gravitationnelle, donc 14 septembre 2015. Et donc en particulier, la figure 3 montre le schéma d'un interféromètre de Michelson, donc l'interféromètre LIGO, qui était le premier instrument à avoir détecté une onde gravitationnelle. Donc il s'agit d'un instrument qui a été inventé au 19e siècle par Albert Michelson. Et donc Albert Michelson aura le prix Nobel d'ailleurs pour l'invention de cet instrument. Alors, le schéma pour Virgo et LIGO est un petit peu plus compliqué qu'un schéma classique d'interféromètre Michelson. Il y a des miroirs en plus pour augmenter la sensibilité de l'instrument. Mais globalement, il faut un laser pour un interféromètre Michelson. Il faut un laser, un miroir qui divise le faisceau laser en deux et deux miroirs sur les deux bras qui réfléchissent les deux faisceaux laser.
Pour décrire le schéma, je me dis que ça peut être une bonne idée de le comparer aux quatre coins cardinaux de la boussole pour donner un repère. On a donc un bras qui serait comme le nord, d'une boussole, un bras qui serait comme l'est d'une boussole. Et donc c'est du nord et de l'est que partent deux rayons laser. Il y en a un, celui du nord, donc, qui traverse le miroir semi-réfléchissant. l'autre, celui de l'Est,
qui est réfléchi.
Qui est réfléchi. Et donc, comme le miroir semi-réfléchissant est incliné à 45 degrés, et ben, la lumière se retrouve après au même endroit, c'est-à-dire au sud. Il y en a une qui est réfléchie et qui est envoyée du coup vers le sud, et l'autre qui traverse du nord vers le sud. Et donc, le faisceau lumineux se retrouve vraiment au même endroit au sud.
Exactement. Donc, les deux faisceaux se retrouvent au même endroit. Le faisceau qui vient du nord et qui traverse le miroir semi-réfléchissant se retrouve superposé avec le faisceau qui vient de l'est et qui est réfléchi par le miroir semi-réfléchissant. Donc, les deux faisceaux sont superposés et c'est là qui se produit l'interférence entre les deux faisceaux. Mmh. L'interférence, c'est quand les deux ondes sont superposées. Donc, les deux ondes peuvent se sommer si elles sont en phase, donc en gros les crêtes sont alignées, ou elles peuvent se soustraire, elles sont en opposition de phase. Donc il y aura plus de lumière en sortie si les ondes sont en phase et moins de lumière si les ondes sont en opposition de phase. Et donc l'intensité lumineuse change en fonction du déphasage relatif entre les deux ondes. Et le déphasage relatif dépend de la longueur relative entre les deux bras de l'instrument. Et donc ce déphasage peut être produit par une onde gravitationnelle. Donc l'onde gravitationnelle traverse l'interféromètre, produit un déphasage entre les deux faisceaux, le faisceau nord et le faisceau est, dans notre définition. Et donc, ce déphasage produit une différence de puissance à la sortie de l'instrument, une différence de puissance que l'on cherche à détecter avec Virgo et LIGO.
Le 14 septembre 2015, la première onde gravitationnelle est détectée par la collaboration LIGO et Virgo. Au-delà du caractère historique de la découverte, cette expérience était aussi une nouvelle manière de tester la théorie de la relativité générale et ce qu'elle nous dit du temps.
Ça renforce notre confiance dans cette théorie qui est notre théorie dès l'espace-temps.
Et pour la suite de la détection des ondes gravitationnelles, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des mesures plus précises?
Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nos mesures sont limitées par la mécanique quantique. Pour moi, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui lie en quelque sorte l'infiniment petit, la théorie de l'infiniment petit, la mécanique quantique, et la théorie de l'astrophysique, la cosmologie, la théorie de l'infiniment grand, enfin avec laquelle on décrit l'infiniment grand, la relativité générale. Donc on cherche de contourner ou en quelque sorte d'aller au-delà des lois de la mécanique quantique. Évidemment, on peut pas les détourner. On cherche à jouer, disons, avec les lois de la mécanique quantique, avec ces états manipulés de vide, au vide comprimé, pour regarder toujours plus loin dans l'univers.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Yann Mambrini, une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Oui, la détection des ondes gravitationnelles, en effet, c'est une des plus grandes découvertes quasiment 100 ans après la théorie de la relativité générale. Il y a un autre type d'ondes gravitationnelles qui attire aussi beaucoup les chercheurs et qui se développe à la fois au CERN et à la fois à Desi, à Hambourg et dans plusieurs parties dans le monde. C'est les ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire que c'est l'écho du Big Bang. Lorsqu'il y a eu un Big Bang, il y a une déformation d'espace qui a créé aussi des ondes. On appelle ça stochastique parce qu'elles seraient tout autour de nous. C'est un peu l'équivalent du fond diffus cosmologique avec des photons. On a autour de nous la même chose mais avec des gravitons, je dirais, avec la gravitation. Et là, les fréquences sont beaucoup plus élevées. Hein. Les fréquences et longueurs d'onde sont liées au phénomène, donc des trous noirs de l'ordre de 30 km, ça va faire des longueurs d'onde de l'ordre de 30 km, des fréquences de l'ordre du Hertz ou 0,1 Hertz ou 10-2 Hertz. Dans ce cas-là, on a des fréquences de 10 puissance 11 ou 10 puissance 12 Hertz, donc des longueurs d'onde très petites en fait. Et donc on fabrique en ce moment des cavités résonantes pour essayer de détecter ces ondes gravitationnelles primordiales, ce qui serait vraiment une première vision du Big Bang bien avant le fond diffus cosmologique, donc 10-36 secondes après le Big Bang. Donc ce serait vraiment une belle source et beaucoup de recherches sont dédiées à cette recherche.
Et en effet, pour tout comprendre sur ces ondes gravitationnelles primitives, je vous invite à podcaster donc notre épisode Ondes gravitationnelles, LISA va plus loin. On vient de vous poster le lien vers cette émission. Marc Lachiazeret, une réaction vous aussi à l'écoute de ce reportage?
Oui, moi je m'intéresse beaucoup à ces phénomènes, ces processus de détection d'ondes gravitationnelles, parce que Bien sûr, c'est une mise en évidence des effets de la relativité qui ressemble un peu à ceux dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi ça commence à toucher au problème du temps en physique quantique, parce que un photon qui se promène, c'est un dispositif quantique, si vous voulez, et le photon, il a toujours, par définition, la même vitesse, du moins en relativité. Mais justement, en physique quantique, un photon, c'est un objet beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, parce que, finalement, c'est une superposition d'ondes. C'est ce qu'on appelle quelquefois un paquet d'ondes. Et bien sûr, les ondes vont toujours, je dirais presque par définition, à la vitesse de la lumière, mais la superposition ne va pas forcément à la vitesse de la lumière. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et le phénomène dont on parlait tout à l'heure en physique quantique, en relativité, ce qui s'appelle l'effet Einstein, c'est-à-dire que les décalages temporels dont on parlait tout à l'heure dépendent de la gravitation. Aujourd'hui, ils sont mis en évidence sur des systèmes de taille extrêmement petite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez deux horloges qui sont séparées seulement d'un millimètre, ça correspond aux dernières expériences qui ont été faites au mois d'octobre, eh bien, elles sont désynchronisées. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre deux horloges qui sont simplement séparées d'un millimètre. Et plutôt que d'utiliser deux horloges, en fait, les expérimentateurs ont utilisé deux parties d'une seule horloge, c'est-à-dire deux parties d'un même système quantique. Parce que les systèmes quantiques, ils ont une caractéristique, c'est qu'en général, ils sont non localisés. Par exemple, si je veux représenter une seule particule, elle est à la fois un peu ici, un peu là, quelquefois, dans des cas extrêmes, quand on la fait passer par deux fentes, elle est à la fois dans la fente de droite et dans la fente de gauche. Et ce qui a été montré par cette expérience, c'est une vérification concrète du fait que dans le même système quantique, dans une partie et dans l'autre, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Et ça pose un problème en physique quantique parce que en mécanique quantique, on utilise une équation d'évolution qui s'appelle l'équation de Schrödinger, que tous les étudiants connaissent très bien. C'est ce qu'on apprend en premier en physique quantique, qui exprime l'évolution d'un système quantique par rapport au temps. Mais ce temps, il n'existe pas. Parce que justement, dans votre fonction d'onde, le temps qui s'écoulerait à gauche, si on veut utiliser cette appellation de temps, qui bien sûr est impropre, mais c'est ce qu'on voudrait faire en physique quantique, le temps qui s'écoule à droite, le temps qui s'écoule à gauche, le temps qui s'écoule au milieu, c'est pas le même. Et pourtant, on met un temps unique dans l'équation de Schrödinger. Donc, si vous voulez, c'est un paramètre qui n'a pas de sens physique. En plus, on ne peut pas le mesurer. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer non plus les durées qui seraient la chose qui a du temps en physique quantique. Par exemple, quand vous avez un processus quantique, un saut quantique, par exemple, qui se produit tout le temps, est-ce que le saut quantique est instantané? Est-ce qu'il a une durée qu'on peut mesurer? Ou bien est-ce qu'il a une durée qu'on ne peut pas mesurer? Ou bien est-ce que cette notion de durée ne s'applique pas? Ça, ce sont quatre positions différentes que les fondateurs de la physique quantique et les praticiens d'aujourd'hui, les théoriciens d'aujourd'hui, se partagent. C'est-à-dire, on ne sait pas.
Et on va revenir on vient de dire beaucoup de choses, mais je voudrais faire réagir Francesca Vidotto par rapport justement à cette question de non-localité qui est fondamentale en physique quantique. Hein, parce que, en effet, cette non-localité, une particule qui peut être un endroit et un autre en même temps, dès lors, comment mesurer la durée quelconque d'un objet si je ne peux même pas dire où il se trouve, Francesca Vidotto? Est-ce que ça veut dire que la non-localité interdit de parler de temps en physique quantique?
Non, je pense que c'est plutôt le contraire, qu'il faut se rappeler que comme on a appris par la relativité restreinte et la relativité générale, aussi en mécanique quantique, il faut toujours se rappeler le fait que chaque mesure dépend de l'observateur. Et aussi, si on a un système quantique qui joue le rôle d'un horloge, lui aussi peut être un objet
quantique.
Un objet quantique, mais qui mesure un temps différent par rapport à des autres observateurs. Donc voilà, comme disait Marc, on est vraiment dans les points dans lesquels les théories du monde plus précises que nous avons, la relativité générale et la mécanique quantique, vont s'effondrer. Et pour l'effondrer, il faut trouver qu'est-ce que c'est qu'ils ont en commun. Et moi, je trouve que la chose qu'ils ont en commun, c'est cette relationnalité. Alors, l'expérience que Marc a décrit avant, qui est une expérience que nous permet, en utilisant des systèmes quantiques avec la production de deux particules entanglées et après recomposées pour mesurer l'effet que même avec une différence d'auteur de juste un millimètre, on voit déjà le décalage, la différence de la force du champ gravitationnel ici sur la Terre. On peut utiliser presque la même expérience aussi, on peut dire on peut la réverser pour faire une mesure du fait que le champ gravitationnel est lui-même un champ quantique. Donc, à ce moment, on est en train de développer, c'est pas une expérience qui a déjà été faite, c'est une expérience qui a été proposée, mais est une expérience qu'on peut peut-être voir réaliser dans les prochaines 5 ou 10 années. On pourra voir qu'une particule suffisamment massive et décomposé avec deux chemins. Et si la seule interaction avec laquelle il interagit avec l'environnement est une interaction gravitationnelle, quand il y a une recomposition des deux particules produites de façon quantique avec une superposition, on pourra voir une différence dans l'onde recomposée, de la même façon qu'on a discuté pour la détection d'ondes gravitationnelles. Si on voit ça, ça peut être un proof que la gravité a cette nature quantique. Et voilà, donc on voit finalement qu'à ce jour, on est de plus en plus proche de mélanger la physique quantique et la physique gravitationnelle.
Parce que jusqu'à présent, et depuis un siècle maintenant, c'est ce qui coince, c'est justement cet aspect de quantifier le champ de gravitation. C'est la tâche future de la physique, ça, Yann Mombrini?
Oui, oui. Il est important de souligner aussi une étape importante en physique quantique. On parle de mécanique quantique. Mais une étape fondamentale entre 1928 et 1947, avec Shelter Island, Feynman, Tomanaga, Dyson, qui ont développé une seconde quantification. Les paradoxes de la physique quantique viennent principalement que l'équation de Schrödinger ne met pas le temps et la position au même point. Il y a une dérivée par rapport au temps, une dérivée seconde par rapport à l'espace. Temps et espace ne sont pas traités de la même façon avec une équation de Schrödinger. Avec une équation de Dirac en 1928, on fait un progrès. Temps et espace sont traités de la même manière. On sait bien que pour Einstein, temps et espace doivent être traités de la même manière. Donc les paradoxes temporels de, par exemple, le principe d'incertitude d'Heisenberg, vient principalement du fait que temps et espace ne sont pas traités de la même manière. Donc on ne peut pas introduire la relativité restreinte avec une équation de Schrödinger. Par contre, si on considère que toutes les soucis de la quantification, on le fait porter sur ce qu'on appelle la fonction d'onde, donc la probabilité, si la quantification, on la fait porter sur la fonction d'onde et non plus sur le temps et sur l'espace, temps et espace deviennent juste des paramètres, tout simple, et c'est le champ, donc la particule devient cette fois-ci un champ quantique, donc un champ comme un champ électromagnétique, un champ qui couvre tout l'espace, et une particule est juste une excitation de son champ, tout comme un photon est une excitation du champ électromagnétique. Donc on a un champ électromagnétique dans l'espace, je frappe mon champ électromagnétique comme un lac, je frappe le bord de mon lac, je crée une vague, et cette vague va être représentée, on va dire que c'est un photon. On va faire exactement la même chose pour une particule, on va dire que ma particule c'est un champ, je frappe le bord de mon lac et mon champ, j'aurai un champ d'électrons, et en frappant le bord de mon champ d'électrons, je vais créer un électron, deux électrons, trois électrons. Donc la théorie quantique des champs va faire porter toute la quantification non plus sur X et T, sur la position et le temps, mais sur le champ qui deviendra quantique. Donc il y aura, on va pouvoir intégrer la relativité restreinte et générale dans les équations quantiques, c'est ça l'avantage, parce que temps et espace seront traités de façon continue sans problème de quantification, et le problème viendra maintenant sur le champ. Et le champ quantique aura des propriétés bien particulières, il y aura par exemple des fluctuations quantiques, le fameux delta x, delta p, donc je ne peux connaître ni la position ou la vitesse exactement, deviendront, je ne peux pas connaître la valeur de mon champ exactement. Mon vide n'est jamais vraiment vide. Mon vide va avoir un petit peu de particules ou un petit peu moins de particules. Et donc, j'aurai des fluctuations quantiques de mon vide. Ce sera la répercussion du fait d'avoir fait porter la quantification non plus sur mon temps ou ma position, mais sur mon champ. Et une des conséquences principales, c'est les fluctuations qu'on voit dans le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique qu'on observe avec des différences de température de 10-5 sont issues de fluctuations quantiques d'un champ qu'on appelle inflaton, responsable de l'inflation. Le fait que notre champ d'inflaton ne soit pas exactement le même dans toutes les positions de l'espace nous montre que certains points de l'espace sont un peu plus denses que d'autres, donc certaines températures sont un peu plus chaudes que d'autres, et donc les fluctuations du fond diffus cosmologique sont directement issues des fluctuations quantiques d'un champ qu'on appelle un champ d'inflaton.
Marc Lachaiserie, votre regard justement sur ces problématiques, et notamment sur cette théorie quantique des champs, puisque en dépit de nombreux efforts, ça ne semble pas possible d'intégrer à cette théorie des champs quantiques une description de la théorie de la relativité générale. Il manque la gravité dans l'équation.
Je ne sais pas s'il faut revenir sur l'inflation, parce que pour moi c'est une idée qui malheureusement ne marche pas, parce que justement, quand on essaye de calculer, ça repose sur l'idée que le vide aurait une énergie et que cette énergie aurait une influence, disons, répulsive en gravitation. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser cette idée, c'est-à-dire à en faire quelque chose qui soit qu'on puisse intégrer dans une théorie quantique actuelle. Peut-être qu'un jour, on aura une théorie pour ça. Mais ce que je voudrais souligner, en tout cas, c'est que, finalement, on parle de gravitation. Ce qui engendre la gravitation, c'est en grande partie l'énergie, ou quelque chose qui lui est lié, le tenseur d'énergie-impulsion. Et l'énergie est tout à fait liée au temps. C'est-à-dire que, par exemple, en physique quantique, on a une relation fondamentale pour les particules, qui est que l'énergie de quelque chose, on peut le représenter par une fréquence. E égale h nu, c'est l'équation fondamentale de la physique quantique, comme E égale mc2, c'est la relation fondamentale de la relativité, si vous voulez. Ça veut dire que toujours, on a une fréquence ou quelque chose de caractère temporel qui est lié à l'énergie. Et on a justement entre le temps et l'énergie une relation d'incertitude, comme Yann mentionnait. Et ça veut dire que on a toujours une grosse incertitude lorsqu'on veut parler du temps en physique quantique. Et en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et encore une fois, comme on ne peut pas mesurer, par exemple, la durée d'un effet tunnel, la durée d'un saut quantique ou la durée d'un processus quantique. On se demande encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il est instantané ou bien s'il a une durée. Et une autre position qui est adoptée par certains, c'est que la notion de durée n'existe même pas à cette échelle-là. C'est-à-dire que la seule notion à caractère temporel qui subsistait dans la relativité, dans la physique quantique, elle disparaît aussi. Et que finalement, le temps serait une chose, une sorte de grandeur émergente, c'est-à-dire que à l'échelle qui séparerait entre guillemets le début et la fin d'un processus quantique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée, il n'y a rien de tel, mais que le temps serait finalement une sorte de comptage des effets quantiques eux-mêmes ou quelque chose comme ça, quelque chose qui serait construit à partir des processus quantiques eux-mêmes, et ça rejoint une autre proposition pour définir le temps qui s'appelle le temps thermique, je sais que Francesca tu connais bien, Carlo aussi, qui finalement est quelque chose qui permet de compter des événements quantiques d'une manière algébrique.
Et on n'aura malheureusement pas le temps de parler du temps thermique, toujours, parce que dans quelques secondes on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais j'invite nos auditrices, nos auditeurs à se plonger dans vos ouvrages. La nouvelle physique, Yann Mambrini, qui est paru aux éditions Albin Michel, et le vôtre, Marc Lachaiserie, Au seuil, voyage dans le temps. Merci à vous trois. Et puis tout de suite, un tout autre sujet. On quitte la physique fondamentale pour la paléanthropologie et on vous parle du succès évolutif d'Homo sapiens et de ses groupes sanguins. C'est la chronique avec science.
Les groupes sanguins peuvent-ils nous éclairer sur les dynamiques des populations disparues ? Je vous parle ici d'une étude parue récemment dans la revue Nature Scientific Reports qui s'intéresse à des marqueurs génétiques datant du paléolithique supérieur, c'est le nom qu'on donne, à la fin du paléolithique. C'est une période qui s'étend de 50 000 à 10 000 ans avant le présent et que vous connaissez probablement pour ces fameuses grottes ornées de Lascaux, Chauvet ou encore Cosquer. C'est une période charnière de l'histoire évolutive de l'homme moderne puisque sur les continents continents européens et asiatiques cohabitent plusieurs espèces du genre Homo. Néandertal en Europe, Denisova en Asie, mais aussi en Asie du Sud-Est, l'homme de Flores et l'homme de Luçon. Petit à petit, toutes ces espèces vont disparaître pour laisser place à Homo sapiens, l'homme anatomiquement moderne, donc vous et moi. Il arrive dans ces régions après avoir quitté l'Afrique lors de sa plus grande vague de migration il y a environ 60 000 ans. Aujourd'hui, on a des traces génétiques de toutes ces lignées et les scientifiques s'en servent pour affiner leur connaissance des mouvements de population. Ici, les chercheurs se sont concentrés sur les traces génétiques spécifiques des groupes sanguins. Stéphane Mazière est chargé de recherche CNRS au laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine de Marseille. Il est le premier auteur de cette publication.
Les groupes sanguins, ce sont comme des étiquettes qui sont portées par le globule rouge, en partie, hein, il n'y en a pas que sur le globule rouge des groupes sanguins. Et quand on les mélange, des fois les types ne sont pas compatibles et cela peut entraîner des réactions très fortes immunitaires qui peuvent entraîner le décès de la personne qui reçoit un groupe sanguin qui n'est pas le sien. Et ces groupes sanguins appartiennent à différentes familles. Alors la première, la plus connue, qui est la famille ABO, c'est, on appelle ça un système, c'est le système ABO, qui va regrouper les quatre grands groupes A, B, AB et O, qui sont codés par un gène propre. Donc ceux-ci sont portés par le globule rouge. Et à côté, également sur le même globule, il y a d'autres molécules qui sont érigées, qui sont par exemple codées par d'autres gènes que ABO. Ça peut être le cas du système RH, qui est le système rhésus. Et la combinaison des deux va donner les types A+, B+, O-, A-, etc.
Il existe 45 autres systèmes qui confèrent à chaque groupe sanguin sa spécificité et sa compatibilité. On sait ensuite sur quel chromosome et à quel endroit sur le chromosome se situe chacun de ces systèmes, ce qui permet de les retrouver très efficacement dans les bases de données. Et on connaît aussi les mutations qui sont à l'origine des groupes sanguins. Alors, il ne reste plus qu'à écumer les bases de données pour trouver les individus dont l'ADN a pu être séquencé avec une précision suffisante et ensuite comparer les différentes mutations. C'est ce qu'ont fait les scientifiques et ils ont obtenu 22 séquences de groupes sanguins d'Homo sapiens et 14 de Néandertal. Alors que nous apprennent ces gènes des groupes sanguins? Eh bien d'abord, ils ont confirmé l'origine africaine de Néandertal puisqu'ils portaient certains gènes ancestraux, donc qui ont été peu modifiés, qu'on retrouve aujourd'hui encore chez les populations subsahariennes. Et pour Sapiens, en revanche, on observe dès 45 000 ans des groupes sanguins qui ne sont pas les formes ancestrales, qui ont donc muté et qu'on retrouve aujourd'hui uniquement chez les populations d'Europe, de l'Ouest et d'Asie. Donc, on peut en déduire que ces mutations sont apparues juste après la sortie d'Afrique et avant la dispersion de Sapiens en Eurasie, donc probablement en Asie de l'Ouest vers le Proche-Orient.
C'est vrai qu'on observe une explosion de diversité, de nouveaux groupes sanguins, donc on a la nouveauté qui apparaît. Et aujourd'hui, on sait que certains groupes sanguins confèrent un avantage plutôt protecteur contre, par exemple, le paludisme, contre certains virus de la gastroentérite, contre le choléra, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, contre également la Covid. Donc on se dit qu'une population qui arrive avec une plus forte diversité de groupes sanguins bien devait posséder en elle un arsenal nouveau pour conquérir plus favorablement ce nouvel environnement eurasiatique. Et pour la disparition néandertal, alors on observe quelque chose d'intéressant, c'est pas forcément lié aux pathogènes ou à l'environnement infectieux, mais plutôt lié au groupe sanguin rhésus, au RH, et à la probable incompatibilité entre une mère néandertalienne et un enfant dont le père ne serait pas un néandertalien, mais plutôt un sapiens ou un Denisova.
Cette incompatibilité entre le rhésus maternel et celui de son enfant entraîne des grossesses à risque. Ce sont les maladies hémolytiques du nouveau-né. Alors, les populations de Néandertal étaient déjà probablement en déclin à ce moment-là, et ce type de croisement à risque a probablement été un facteur supplémentaire pour expliquer leur disparition.
Merci Alexandre pour votre chronique, et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Sofiane Aktib. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.